Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, je vous offre plus d'une heure de bonnes énergies avec Caroline Vigneault, dont la bonne humeur est, vous verrez, très contagieuse. Comment passe-t-on d'avocate à humoriste et actrice ? Que se cache-t-il derrière son amour de la scène ? Comment conçoit-elle ses spectacles ? Quelle est sa philosophie de vie ? Cet épisode est un véritable booster pour vous donner envie de passer à l'action pour réaliser vos rêves. Suite à cet épisode, je vous invite à aller écouter son tout nouveau podcast, CoachCast, dans lequel elle divulgue tous ses secrets pour se reconvertir sereinement. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast sont inestimables. Belle écoute! Bonjour Caroline.
Bonjour.
Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui à distance. Les aléas ont fait que j'ai dû garder ma fille aujourd'hui.
C'est la vie.
Je suis avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de ta reconversion, de ton développement personnel, professionnel, de ton podcast, bien sûr, que tu as lancé il y a quelques semaines, qui vraiment vise à aider ceux qui auraient envie de se reconvertir. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui doivent être dans la même situation puisque c'est un peu la cible aussi que je vise, la réalisation de ses rêves, aller au bout de sa passion. Donc voilà, si tu pouvais te présenter avec, pour changer un petit peu de ta présentation d'habitude, avec 3 adjectifs, quels seraient-ils ?
Oula, positive, courageuse et j'allais dire dépressive, mais non, c'est pas ça. Pas dépressive, mais parfois, alors, ce qui me définisse, non, je dirais volontaire, ouais. Ouais, volontaire.
Alors, c'est intéressant, pourquoi tu as hésité avec dépressive ? Qu'est-ce qui se passe là-dessous ?
Non, parce que le problème quand t'es courageux ou volontaire, parce que c'est peut-être un peu la même chose, je sais pas, c'est que tu passes par des phases mais qui d'ailleurs vont nécessiter du courage parce que tu as des phases où c'est difficile. Il y a des moments où ça m'arrive, il y a des jours où j'arrive plus, quoi, j'ai pas d'idées, notamment en phase de créativité quand tu dois écrire. Il y a des moments où je suis assez découragée et il me faut un moment d'adaptation ou de lutte, c'est-à-dire en gros à ce que font beaucoup de gens, hein, dans ton lit, en mode j'ai pas pris de douche, j'ai même pas envie. Et puis d'un moment, tu es allez, maintenant ça suffit. Et donc maintenant, j'ai des tricks pour m'aider à maintenir un certain niveau de dynamisme, de courage, de volontariat et pour moins céder à la difficulté. Mais j'ai vraiment mis en place tout un système comme des béquilles tout le long du trajet.
Quoi. Et ben justement, moi j'ai passé, pour te dire, la journée en pyjama hier. Donc c'était une mauvaise journée. Donc je connais ça. Je suis à mon compte aussi. Et quels sont tes tricks du coup, si tu pouvais nous dire ?
Alors j'ai une collection de calepins. C'est j'ai un calepin pour tout. Il y a des gens qui ont des applications. Moi j'ai des calepins. Alors je suis un peu je suis amoureuse d'une marque de calepins et je suis même les collections. Tu vois, je vais les acheter. Il y a certains, je les trouve tellement beaux. Mais et donc j'ai un calepin pour me dire qu'est-ce que je vais faire demain, tous les moments où je me couche le soir. Okay. J'essaie de me dire demain, tac, 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 tac. Franchement, on va se dire la vérité. 99,9% du temps, je ne peux pas faire ce qui est écrit sur le calepin parce que le soir où je me couche, je suis hyper motivée et le matin, je me lève déjà, j'ai une demi-heure de retard sur le planning et tu sais, c'est l'effet domino.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Du coup, le lendemain, j'ai barré tout ce que j'ai pu faire. Je prends tout ce que j'ai pas fait. Je le remets sur la liste du surlendemain avec les tâches en plus. Donc ça, c'est, tu vois, ça, c'est une méthode. J'ai un truc avec des recettes pour dire qu'est-ce que je vais manger. J'ai un truc pour me dire fais du sport à telle heure, fais ceci. J'ai les calepins par idée, par projet. Donc voilà, je me balade avec 2 kilos de calepins tous les jours sur moi. Et donc, à chaque fois que j'ai un souci, il est où le calepin?
Ok. Voilà. Quand j'ai fait des recherches sur toi pour préparer cette interview, j'ai lu beaucoup que tu étais généreuse, une comédienne généreuse et à la joie de vivre contagieuse. C'est vrai, quand je te vois là, qu'on commence l'interview, t'as tout de suite une joie de vivre qui nous embarque avec toi. Comment tu fais au quotidien pour conserver cette joie de vivre ?
En fait, moi, je suis quelqu'un, c'est pour ça que je l'ai dit en premier, de très positif. Ça, je l'ai remarqué dans ma vie parce que je vois très souvent le verre à moitié plein. Et d'ailleurs, j'ai du mal avec les gens qui le voient tout de suite à moitié vide. Ce qui ne veut pas dire que ça ne m'arrive pas, comme j'en ai parlé. Mais d'une façon globale, c'est une gymnastique que je me suis imposée. Et c'est comme tout, en fait. Plus tu le travailles et plus ça devient naturel. Et en fait, ça vient de quoi ? J'en ai déjà parlé, mais c'est un moment, un clé de ma vie. J'étais très proche de mon grand-père et le jour où il va décéder, je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Et ce que je trouve complètement dingue après son décès, c'est que le reste de la planète continue à tourner comme si c'était rien passé. Alors que ma vie est dévastée. En plus, il était mourant. Moi, je suis une famille catholique, donc j'étais à son chevet. Je lui ai tenu la main pendant une semaine. Je l'ai accompagné dans la mort. Et donc, c'est une semaine qui a bouleversé ma vie parce qu'il y avait très peu d'échanges, mais du coup, j'avais du temps pour penser, j'ai pas arrêté en lui tenant la main et j'avais des réflexions, comme on en a rarement dans la vie, une semaine à réfléchir, enfin, à part de partir en méditation. Dans les vies qu'on a, ça n'arrive pas. Et là, elle m'a été imposée par cette arrivée soudaine de la mort de mon grand-père. J'étais avocate à l'époque. Et je suis là et je me dis, mais est-ce qu'il a été heureux? J'en sais rien, parce que chez les catholiques, on dit pas si on est amoureux, on dit pas si on est heureux, on dit pas si on a mal, on dit rien. Et puis du coup, après, est-ce que moi, je suis heureuse? Est-ce que, tu vois, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on doit se dire quand on va mourir? Et là, je me suis dit, on doit faire le bilan de sa vie, ça doit être affreux. Imagine, t'es sur ton lit de mort et tu dis, ah, je voulais faire ça, ça et ça, et je l'ai pas fait. Et c'est ce truc qui me fait, oh là là, mon Dieu, ça, je voudrais surtout pas que ça m'arrive. Et là, je me dis, tiens, mais moi, si je mourais demain, est-ce que ma vie, elle est assez remplie de ça? Et là, je me dis, bah non, j'étais avocate, ok, super, mais et quoi d'autre? Bah, c'est tout. Je vais quand même pas avoir une vie au moment de mourir, je vais me dire, j'ai été avocate. Est-ce que ça suffit à remplir ma seule et unique vie? Et là, j'ai une espèce de dividence, tu sais, qui me frappe au visage, qui dit, bah non, ça suffit pas. Et ok, ça te suffit pas, qu'est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais faire? Et là, comme je suis dans cet endroit, en plus, c'est dans les Vosges, il n'y a pas de bruit, à part il y a une vieille horloge, tu sais, qui fait comme ça, qui sonne les demi-heures, toutes les heures. Enfin, c'est une espèce de truc vraiment. Et je me dis, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est faire rire les gens. Et c'est ça qui va me donner le courage après sa mort. Donc, moi, je suis dévastée, le monde continue de tourner. Je me rends compte que quand moi, je vais mourir, le monde va continuer de tourner. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais en plus, moi, je vais mourir. Et là, je le dis à tous les gens qui nous écoutent, vous allez mourir, tous, sans exception. Il n'y en a pas un de nous qui va s'en sortir. Et une fois que tu sais ça, au lieu d'avoir le premier réflexe humain qui dit, ah, arrête, me le dis pas, je veux pas savoir.
Exactement.
Non, entends-le. Ça va diminuer la hauteur de tes problèmes de moitié, voire de trois quarts. Les montagnes du quotidien de « Ah, oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », quand tu vas sur ton lit de mort, tu te souviens même pas que t'as oublié de déboucher l'évier, que ça fait une semaine que tu t'emmerdes parce que t'as pas la facture à payer ou ceci ou cela. Au moment de ta mort, tout ça, t'en auras plus rien à faire. Ce dont tu te souviendras, c'est les projets que t'as réalisés, les gens que t'as aimés ou que t'as pas aimés, ce que t'as pas fait. Mais les petits problèmes qui nous bouffent la vie du quotidien, en se souvenant qu'on va mourir, ça les remet à une bonne taille qu'on peut gérer en fait. Et puis surtout, ça donne envie d'être vivant. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que mon envie d'être vivante, de partager chaque instant au maximum avec les gens et essayer de trouver de la joie dans chaque instant. Tu vois, là, on enregistre ce truc, on devait se voir, on se voit pas. Si tu voyais, moi, je te vois, mais t'es complètement pixelisée, c'est-à-dire que je te croise dans la rue, je ne sais même pas quelle tête tu as. Mais je trouve ça marrant, la situation fait que... Et je profite de ce moment, franchement. Ouais. Et je me dis, dans ma vie, il n'y aura peut-être pas deux moments comme ça, et ce moment, il est chouette, il est sympa. Et quand je vis un moment moins agréable, ce qui m'arrive assez souvent... Et ben, comme tout le monde, j'essaye de trouver l'axe, si c'est une gymnastique pour me dire, ok, dans ce moment désagréable, il y a forcément un truc agréable. Mmh. Faut que je le trouve. Exactement. Et j'en trouve un. Même les trucs les pires, comme la mort d'un proche, tu peux trouver quelque chose de positif.
Mmh. Ouais, bien sûr, c'est dur à intégrer, mais je pense, enfin après, ça dépend des croyances et tout, mais je pense que de toute façon, on a choisi en fait ce qu'on devait vivre et on a choisi aussi à quel moment on devait mourir pour accomplir ce qu'on avait à faire sur cette planète. Mais bon, après c'est un autre débat. Mais moi je suis très croyante. Mais
surtout qu'on peut changer. Enfin moi je pense qu'on peut changer son destin en changeant sa mentalité sur l'énergie positive. Et je donne un truc très simple, vraiment le truc le plus simple quand on est dans le mauvais mood. Et je dis ça, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais ça m'aide vraiment beaucoup. C'est la musique. Quand vous avez ce moment où vous avez envie de vous foutre en pilou dans votre plumard, qu'il n'y a rien qui vous plaît, que ça va pas bien, prenez un casque, mettez-le sur les oreilles, musique à fond, et faites-vous une playlist. La playlist, moi je l'ai appelée la playlist énergie, vous l'appelez comme vous voulez, et dessus j'ai mis ces musiques que quand je les écoute, j'ai beau être au fond du trou, j'ai l'épaule qui bouge et j'ai le truc. Des trucs qui vous rappellent votre enfance, qui vous rappellent votre jeunesse, qui vous rappellent des moments de joie ou qui sont des telles musiques tellement fortes et puissantes que de toute façon, bah, ça part et ça vous fait sourire. Voilà. Et ça marche assez bien, ça peut permettre de changer de mood.
Et petite fille, justement, si on repart quelques années en arrière, est-ce que tu étais cette petite fille positive? Quel était, bon, ton rapport, en fait, au monde, aux autres, à tes parents? Est-ce qu'il y avait cette place pour la joie de vivre et pour les rêves?
Pas du tout. J'étais assez... je ne veux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Ça serait vraiment affreux pour mes parents d'entendre ça. Non, j'ai eu une enfance pour plein de gens très heureuse. Mais moi, je n'étais pas très heureuse au fond. Je m'en suis rendu compte après. Mais parce que j'ai passé mon enfance à entendre une phrase qui m'a profondément agacée, blessée et meurtrie. C'est « Chut, Caroline, tu fais trop de bruit. Arrête de faire ton intéressante. Voilà. » Et donc, j'étais dans un milieu où les petites filles doivent remplir un certain nombre de règles, être douces, être gentilles, ça. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué. Je courais partout, je sautais, je parlais non-stop, j'arrêtais, j'étais un moulin à paroles, de questions. Ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui hyperactif ou TDAH, j'en sais rien. À l'époque, c'était fatigante. Et du coup, j'ai vécu des traumas à l'école. Je posais trop de questions. J'ai une prof de physique qui ne voulait plus me répondre. Elle faisait comme si j'existais plus. Donc, elle disait, il y a les questions. Je levais la main comme ça. Elle me voyait. Elle disait, OK, pas de questions, continue. C'était affreux.
Ah ouais.
C'était horrible. Je connais son nom. Hein, je ne le donnerai pas. Parce que... Mais elle m'a marquée. Et parmi d'autres personnes comme ça. Et ça m'a pris du temps. Et il a fallu que je devienne avocate, que pour réaliser que d'abord c'était ma vie, que je pouvais en faire ce que je voulais et que je pouvais faire ce que je vais faire, c'est-à-dire démissionner d'une vie établie avec 14 ans, 7 ans d'études, 7 ans de droit dans un gros cabinet américain. Je gagne bien ma vie. En plus, je parle beaucoup, je suis payée pour parler, c'est quand même un miracle. Et puis de me dire, oui, mais j'ai le droit de faire autre chose si j'ai envie. Et puis avec l'analyse du temps, parce qu'on découvre vers 30, 40 ans, qu'on comprend vraiment qui on est, on accepte qui on est. Et aujourd'hui, j'ai dû déconstruire ma vie pour reconstruire la nouvelle avec ce que moi, je veux être. Et ce que je trouve formidable, c'est que ça déplaît à plein de gens. Et je le vois, parce que dès que t'es un peu public, les gens se permettent de dire tout et ce qu'ils veulent sur tes réseaux. Et surtout ce qu'ils aiment pas et ce qui ne va pas et que t'as pas le droit de faire ci et tu dois pas faire ça comme ça. Pour tout et pour rien. J'ai fait un jeûne de 7 jours, j'ai juste breaké le jeûne en vidéo parce que j'avais envie d'expliquer, je recevais plein de messages parce que je maigrissais quand même beaucoup, 7 jours sans manger c'est beaucoup. Donc j'ai fait une vidéo, je dis voilà, j'ai fait un jeûne, je vous dis pas de le faire, c'est mon parcours, je le fais, mais je vous explique mon expérience. J'ai reçu des messages et j'en reçois encore, ça fait 2 ans, hein, j'en reçois encore. Donc quoi que je dise, de toute façon, il ça plaira pas à certaines personnes. Et ben pour vous c'est pareil, les amis, on s'en fout en fait.
Ouais.
Faut savoir quand même que Martin Luther King, il y a des gens qui l'aimaient pas. Même Sœur Emmanuelle, je suis sûre qu'il y a des gens qui l'aimaient pas. Donc,
bah oui.
Vu ce niveau, ce level de gens formidables qui sont pas aimés par l'intégralité de la planète, nous, on n'y arrivera pas non plus.
Bah oui.
Donc, l'idée, c'est de se dire, à mon sens, hein, eh ben, laisse les chiens aboyer, la caravane passe.
Voilà. Ouais, exactement.
Et donc, petite fille, j'ai souffert, mais aujourd'hui, j'ai acquis ma liberté. Ça déplaît à certaines personnes qui trouvent que je dis des grossièretés, que je suis trop libre en fait. Hein. Mais aujourd'hui, ça m'atteint pratiquement plus.
Oui, et puis c'est le fait qu'on t'ait aussi, entre guillemets, brimée petite. Et puis en plus, en effet, on culpabilise pas du tout tes parents. Et je pense, en effet, que les parents de l'époque étaient moins sensibilisés aussi à l'écoute de l'enfant. Aujourd'hui, moi, il y a une expression que je déteste, c'est, et d'ailleurs que mon mari dit, s'il m'écoute, je n'aime pas, c'est « sois sage ». Aujourd'hui, c'est un truc, on demande à un enfant d'être sage, alors qu'un enfant doit tout sauf être sage, en fait. Un enfant, il doit courir, se salir, parler. Et en fait, mais je les blâme pas. Moi, mes parents aussi, c'était chute, c'était soisage. Mais en fait, parce qu'il y avait beaucoup moins de, voilà, de livres, de discours sur aujourd'hui, voilà, l'importance de podcast, exactement, sur l'écoute de l'enfant et puis sur sa construction aussi. Et donc aujourd'hui, bah oui, bah, tu sors aussi tout ce que t'as pu ne pas sortir parce que c'était ton tempérament et ton caractère. Donc,
Mais voir aussi l'éducation qu'ont reçu nos parents.
Voilà,
bah, évidemment. Mon père avait été élevé chez les jésuites. Mmh. Le matin, la prière, machin. Les punitions, c'était à genoux sur des règles en fer.
Ouais,
ils prenaient des coups et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux
exactement.
Que ce qu'ils ont fait.
Exactement.
Et puis, comme me l'a très justement dit un jour ma mère, si j'ai ce courage, c'est-à-dire, quand je dis le mot courage, c'est la volonté d'affronter la peur. C'est ça, comme ça que je le vois, et de me dire, allez, je me lance. C'est aussi parce que ma mère a raison. Je ne dis pas que c'est la seule méthode et je ne pense pas que ce soit une bonne méthode, mais le résultat est là. J'ai subi cette méthode et aujourd'hui, c'est là. J'ai affronté mon père et son éducation hyper stricte pendant très longtemps. J'ai pris pas mal de gifles, hein, même beaucoup trop. Mais du coup, ça m'a forgé ce caractère, certains diront de merde. Et moi, j'essaie de côté positif et j'ai dit courageux. Mais qui fait que ouais, rien, très peu de choses m'effraient dans la vie. Je me dis tant pis, j'y vais. Et si je me plante, tant pis, c'est pas grave, quoi. Mais j'y vais. Et j'ai pas peur d'y aller. Enfin, c'est pas que j'ai pas peur, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Mais j'arrive à dompter ma peur pour y aller quand même. C'est pour ça que j'adore ce mot de courage. Et, ou alors, un mot que j'utilise beaucoup dans la langue française que j'aime énormément, c'est le mot audace.
Exactement. Et c'est
courage et audace, je crois que c'est mes deux mots préférés.
C'est un grand mot d'ailleurs du podcast. C'est vraiment. Est-ce que tu te souviens, toi, de la construction de ta sensibilité artistique, en fait, ton premier souvenir qui est relatif voilà, à l'art, à la comédie?
Alors moi, je suis une famille où il n'y avait pas beaucoup d'art. Franchement, je suis allée très peu au théâtre, rarement au cinéma, au musée, vraiment pas. Je le regrette d'ailleurs, j'aurais aimé avoir ce que j'ai fait moi avec mes enfants. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et moi, je me suis construite avec l'art complètement par hasard. Et ma première émotion, je m'en souviens comme c'était hier, elle va bouleverser ma vie, c'est dans les Vosges, chez mon grand-père, le fameux. Et un jour, il va mettre une cassette vidéo dans le magnétoscope. Il s'agit de Croque-Monsieur, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan. Alors, pour les moins de 40 ans hein, qui nous écoutent, Jacqueline Maillan, c'était la Florence Foresti de l'époque.
D'accord.
À une époque où les femmes, où il n'y avait aucun one-woman show, hein, il n'y avait que les hommes, et où les femmes étaient très peu comiques parce que c'était réservé aux hommes. Et Jacqueline Maillan est une des premières comiques. Elle va être tellement célèbre qu'on va l'appeler La Maillan et elle fait du boulevard. Après, elle va faire du seul en scène, mais au départ, elle fait du boulevard. Et elle est ultra expansive. Si j'ai un conseil à vous donner, hein, allez voir hein, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan. Et pour ceux qui ont vu Papy fait de la résistance, c'est la cantatrice.
D'accord.
Celle qui joue la mamie. Et cette femme, donc, elle est sur scène et cette pièce est très drôle. Je ris, je vois toute ma famille se marrer et elle est là, fait tchapoum, tchapoum, comme ça. Elle crie, elle tape des pieds. Et là, je vois que ça fait rire ma famille. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me rends compte qu'avec l'art, une femme peut aussi se comporter comme ça et que ça passe. Et Jacqueline Maillan va me donner. C'est la première porte vers l'autorisation. On va enfin me dire, mais là, il y a une voie où peut-être, alors, il va me falloir 30 ans hein, pour y arriver, mais c'est la première fois voilà, que je me dis, c'est incroyable. Et je me vois encore découvrir ça avec des yeux écarquillés, cette femme.
T'avais quel âge?
Ouais, je vais avoir 5-6 ans.
Ah ouais.
6 ans peut-être.
Ouais, donc.
Et ça, ouais, ça, c'est vraiment un gros bouleversement. Et puis après, très rapidement, l'humour, quand tu es mal dans ta peau. Ce qui est assez étonnant, c'est que les gens ont du mal à comprendre que j'étais mal dans ma peau, mais j'étais très mal dans ma peau. Après, très rapidement, l'humour, quand tu es mal dans ta peau, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens ont du mal à comprendre que j'étais mal dans ma peau, mais j'étais très mal dans ma peau. Et du coup, j'utilisais beaucoup l'humour, comme beaucoup de gens, pour cacher tous mes sentiments que j'arrivais pas à gérer. Je faisais marrer tout le temps. C'était mon truc. Et d'ailleurs, quand je vais arriver au cours Florence, le premier qui va vraiment se rendre compte, c'est le prof que j'ai, et qui à chaque fois que je fais un truc que je me sens mal à l'aise, je commence à partir dans les tours, et notamment avec le premier jour, il me fait « Fais-moi un texte », et je fais « Orage, au désespoir », et là je fais « Oh vieillesse, ne m'inège dont on vécu que pour cette... » Et au dernier moment, il me coupe, il fait « Tu sais de quoi ça parle ?» Et là je continue, je fais « Ouais, c'est l'histoire d'une meuf qui couche avec son fils ». Et là, il me fait, bon, ouais, on va reprendre les bases. Il va me parler de sincérité, de sentiment. Et donc, à chaque fois que je suis sur scène et que je joue, il me fait sincérité, sincérité pour aller chercher le truc. Et je suis paniquée. J'ai l'impression d'être à poil, alors qu'avec l'humour, c'est pas vraiment moi. Enfin, il y a une espèce de carapace qui est hyper agréable et beaucoup d'humoristes l'utilisent d'ailleurs, je crois.
On va en reparler. Mais avant, j'ai quand même envie de parler forcément de ton métier d'avocate, puisque tu l'as été pendant quelques années.
Ouais, près 7-8 ans.
7-8 ans, d'accord. Alors, est-ce que c'était un aboutissement, une vocation? Quel souvenir tu gardes de cette envie de devenir avocate et puis de tes études et de ce métier?
Ça, c'est un truc magique parce que je peux dire que dans ma vie, j'ai déjà au moins, j'en ai réalisé plus que ça, mais professionnel, j'ai réalisé deux rêves. Parce que je me suis placée plein, j'adore me placer des challenges. J'en ai fait un avec le kitesurf. Aujourd'hui, j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre. Mais professionnellement, j'ai réalisé deux rêves. Le premier, c'était d'être avocate. Et notamment, je me souviens très bien, en face du Palais de Justice à Paris, il y a une boutique qui s'appelle Bosque et qui vend les robes d'avocats. Okay. Donc en vitrine, ouais. Il y a des robes d'avocats et des robes de magistrats. C'est une boutique spécialisée là-dessus. C'est des vêtements réglementés qu'on ne peut avoir que quand on a le diplôme.
D'accord.
Et tous les jours, je passais devant cette boutique et tous les jours, pendant mes études et tout, je passais régulièrement. Je disais, un jour, je rentrerai dans cette boutique pour acheter ma robe. Et une fois, deux fois, 10 fois... Et ça, voilà, et c'est un mantra, et ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Je le faisais déjà petite avec mon premier truc comme ça, c'est un pull René Derry que je voulais m'offrir, qui coûtait 500 francs. À l'époque, c'était. Donc, j'ai fait des cours de maths, du babysitting, j'ai économisé, je passais tous les jours avant d'aller à l'arrêt de bus devant ce truc. Et un jour, ce pull sera à moi. Et quand j'ai eu mes 500 francs, je suis rentrée dans la boutique, je l'ai acheté. Ce pull, je l'ai gardé. Hein. À l'époque, je dois avoir 12 ans, je l'ai gardé. Il est immonde, il est dégueulasse. À l'époque, je l'ai magnifique. Mais je l'ai gardé, c'est mon premier trophée. Et donc, la robe d'avocat, c'était vraiment un truc que je voulais. Et je me souviens encore du premier jour où je l'ai mise. Le poids, la fierté que j'avais devant la glace. D'avoir eu le diplôme, ouais. De porter la robe. Et après, je marchais dans les couloirs du palais de justice comme font tous les jeunes avocats avec la robe, avec cette espèce de fierté. Et des gens que vous croisez qui font « Excusez-moi, maître. Ah, c'est moi. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous aider avec l'angoisse ?»« Je viens juste d'être avocat, j'y connais rien. Me posez pas de questions. »
Ouais, donc c'était vraiment un accomplissement, quoi. C'était...
Ah non, mais je voulais être.
D'accord.
Avocate.
Et c'était pour toi, vraiment pour toi, Caroline, ou pour faire plaisir inconsciemment à papa, maman, la famille?
Alors, clairement pas pour faire plaisir à mes parents, parce que j'avais pas d'avocat dans la famille, okay. Donc il n'y a pas de truc là. Mais malgré tout, quand je dis ma sœur est devenue médecin, moi, avocat, tu vois, ça te donne l'idée, c'était que faire des études n'était pas une question. On était éduqués pour faire des études, si bien que je me suis jamais dit, tiens, est-ce que tu as envie d'être comédienne? Ça ne faisait même pas partie du champ des possibles dans mon cerveau. Qui avait été placé dans cette méthode-là. Ce que tu dois faire plus tard, c'est des études pour faire un métier, un vrai métier. Donc c'est moi qui ai choisi très clairement d'être avocat. Je pense que si j'ai choisi avocat, c'est pas pour rien. C'est parce que malgré tout, il y a un lien à la parole. Parce que moi, j'étais avocate plaidante.
Ouais.
Un lien à la parole. J'ai toujours aimé la langue française. Je suis amoureuse de cette langue parce qu'il y a tellement de mots qui permettent de définir ce qu'on veut dire. Et puis des associations de mots magiques. C'est pour ça que j'adore lire le Virginie Despentes. Vous prenez une table, vous voulez dire qu'elle est abîmée. Bon, une table abîmée, voilà, une table abîmée. Mais si par exemple on met une table fatiguée, on ressent la même chose, mais en plus on sent le poids. Juste avec un mot sur une table, tu la mets blanche, verte, abîmée ou fatiguée par exemple, et ben ça dit autre chose. Même si ça veut dire un peu la même chose, c'est des nuances qui sont propres à la langue française, parce qu'on a tellement de vocabulaire, tellement de choix, on peut jouer avec les mots. Et donc, j'ai choisi ça, je pense, parce que j'ai toujours été attirée par la parole, l'oralité, j'ai fait des concours d'éloquence, j'adorais ça. Et donc, c'est pour ça que mon métier d'aujourd'hui, il est quand même pas très loin non plus, même si c'est pas la même finalité. J'ai choisi ce métier-là, j'ai jamais voulu être médecin, quoi, jamais.
Et quel souvenir tu gardes de ces années ?
Merveilleuse. Ah non, mais souvent on me dit si t'avais pu te construire avant comme t'es, je dis ah non, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette formation-là. J'ai adoré ces années d'avocature. J'ai rencontré quand même énormément de gens qui sont aujourd'hui toujours mes amis, mes très bons amis. Je suis toujours attirée par ce milieu. Je trouve que la justice est quelque chose de formidable. Les avocats également. La défense, enfin défendre des gens, c'est... Voilà, c'est une véritable passion. C'était une vocation, peut-être pas aussi forte que je l'imaginais, puisque j'ai pu l'abandonner et que des avocats qui ont la véritable vocation, peut-être eux ne pourraient jamais, j'en sais rien. Et que moi, je l'ai abandonnée, alors non sans mal. C'est-à-dire que j'ai démissionné, ça n'a pas été très dur, j'ai démissionné. Enfin, ce qui a été difficile, c'est le courage de sauter. d'affronter la peur du vide, de ce que je vais devenir alors que j'ai fait ça, et puis de faire un acte complètement fou que la société vous dit que vous n'avez pas le droit de faire. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi après, c'était de faire ce qu'on appelle une procédure d'omission. C'est-à-dire vous écrivez à l'ordre des avocats et vous dites « je demande à être omise », donc à ne plus avoir le titre d'avocat. Et ça, entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai eu le courage de faire cette lettre, il m'a fallu presque 6 mois. Et si je l'ai fait, c'est à cause de, ou grâce à mon expert comptable qui m'a dit « si tu le fais après le 1er janvier, tu vas payer 1 an de plus de cotisations ». Et comme je ne gagnais plus d'argent, j'ai fait « bon, bah, ok, d'accord, je la fais tout de suite la lettre
». Et pour parler aussi de ce métier, toi, tu es très féministe, hein, tu t'en caches pas, t'as quelques sketchs sur le sujet. Et justement, je me demandais si ça avait un lien finalement à ce métier. Est-ce que tu as pu être confrontée à des affaires de violences faites aux femmes? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est ce métier qui aurait pu te rendre plus sensible à la cause des femmes?
Bon, je l'étais déjà de toute façon, mais évidemment, j'ai été commise d'office plusieurs fois. J'ai gagné un concours d'éloquence, ça s'appelle la conférence du barreau de Paris. Et quand tu l'as, pendant 1 an, tu es commis d'office en matière criminelle. Il faut savoir que les crimes, à Paris, c'est 80% de viols, 10% de meurtres, 10% de braquages, en gros.
Ouais.
Donc, on fait énormément d'affaires de viols. Et quand on est commis d'office, on défend des violeurs. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, nous, on récupérait les clients après la garde à vue. Et ce qui m'avait le plus frappé et choqué, c'est que quand on les récupère, on dit « voilà, monsieur, vous êtes là pour viol, voilà ce que vous risquez, voilà comment ça va se passer, les assises, le crime, etc. » Et la plupart des mecs me disaient « mais attendez, je crois que vous me parlez de crime, là, j'ai tué personne. » Je dis « mais monsieur, le viol est un crime. » Et là, les mecs tombaient de leur chaise. Comment ça, c'est un crime? Ça peut pas être un crime. En plus, bon, ok, elle n'était pas vraiment d'accord, mais ça va, quoi.
C'est fou.
Et je me suis dit, il y a un problème d'éducation dans ce pays, mais qui est de l'éducation pure. C'est-à-dire que ce type-là ne se rendait même pas compte des conséquences de son acte sur cette femme. C'est-à-dire que lui, il a vu son père frapper sa mère, il a vu des copains violés en groupe, la fille n'a jamais rien dit. Bon, voilà, c'est pas grave. Le lendemain, on la revoit, elle marche dans la rue, on ne l'a pas tuée. Il y avait ce truc, cette omerta, et qu'on a brisé avec MeToo et avec l'évolution du droit humain, hein, de se rendre compte que la femme et l'homme, en fait, bah, la femme n'est pas la serpillière de l'homme et que c'est deux êtres humains et que si on était à égalité, bah, le monde irait beaucoup mieux. Et du coup, il y a un vrai problème d'éducation qui est en train de changer parce que les lois ont changé. Ça a été fait grâce à nos grands-mères. Enfin, c'est quand même ma grand-mère qui a obtenu le droit de voter. Faut pas oublier ça. C'est pas.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, donc, les lois ne sont plus misogynes. Ça y est, on a égalité en droit. Mais ce n'est pas encore le cas dans les faits. On n'a pas le même salaire dans les faits. Les violences faites aux femmes, c'est encore monstrueux. C'est un problème d'éducation. Un homme qui voit son père frapper sa mère va avoir tendance beaucoup plus facilement à frapper sa femme. Parce que c'est dans ses possibles. Alors, je ne dis pas que c'est automatique. La preuve, moi qui ai pris des coups et des gifles et ça avec mon père, j'avais au contraire pris le contre-pied, c'est-à-dire que jamais je toucherai mes enfants.
Ouais, c'est soit en fait t'y vas, soit tu prends le contre-pied, je pense. Il n'y a pas de...
Mais dans les dossiers de pédophilie, ce qui était affreux, c'est que les enfants qui avaient été abusés, on disait dans les psys, on disait que grande majorité, allaient eux-mêmes abuser plus tard. Je connais pas, moi, le phénomène qui veut ça, mais c'est quelque chose qu'on avait souvent dans les dossiers. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, parmi les violeurs, c'était déjà eux-mêmes des victimes de viol.
Mmh. Et ça t'est déjà arrivé, toi, d'être de l'autre côté, de devoir défendre un violeur?
Bien sûr, souvent.
Ah ouais.
Mais de toute façon, ça me pose pas de problème en soi. Ce que je ne peux pas, c'est mentir. Ce que je ne peux pas, c'est défendre. J'ai fait un film qui s'appelle Flashback, qui est sur Amazon Prime Video, je sais pas si tu l'as vu, où je pars d'une affaire qui est une affaire réelle, d'une avocate, qui va défendre un violeur et qui va réussir à le faire acquitter parce qu'elle va dire, en fait, la victime portait un string. Et donc, ce string prouve qu'elle était consentante. Parce que pour le retrouver, si elle a mis un string, c'est qu'elle voulait coucher avec. Et ça, c'est une affaire qui a lieu en Irlande. Et qui va donc faire le mec en question va s'en sortir comme ça, et c'est ça qui va déclencher des grosses manifestations féministes en Irlande. C'est aussi pour ça qu'on voyait des manifs en France ou ailleurs, vous voyez des fois des strings avec écrit This is not consent, ça veut dire c'est pas un consentement, ça vient de là. Mais moi j'ai pris ce point de vue là qui est très important pour moi, parce que dans mon film, en fait, c'est une avocate, comme dans la vraie vie, qui va choisir cet argument-là, qui va le défendre. C'est une avocate qui est carriériste, qui est pas féministe, qui est chiante, et qui va être propulsée dans le passé, et qui va rencontrer les grandes figures de féministes, et puis qui va se taper Napoléon, enfin bref, il va se passer plein de trucs, et qui vont faire en sorte qu'elle va changer pour redevenir une avocate qui ne pourrait plus dire ça. Mmh. Parce que moi, en tant qu'avocate, je n'aurais jamais pu plaider ça.
Mmh, bien sûr.
Je peux défendre quelqu'un.
Ouais, ouais, ouais.
Je peux expliquer pourquoi elle est arrivée là, je peux parler de son enfance, je peux parler de ça, bien sûr, et je dois, et c'est mon boulot, et si je peux pas le faire, je le fais pas.
Ouais.
Mais c'est pas parce qu'on défend un violeur qu'on est pour le viol. Hein.
Ouais, bien sûr. Non, c'est, ouais. C'est hyper intéressant.
Je le dis souvent aux gens qui comprennent pas, c'est un état de droit comme le nôtre, c'est-à-dire pas une dictature, un état de droit, tout le monde doit être défendu. Si tu commences à donner le pouvoir à une personne dire qui a droit à un avocat, qui n'a pas droit à un avocat, c'est la dictature. Donc tout le monde doit être défendu pareil, avec un avocat, et c'est la justice qui tranchera. Moi, j'étais pas juge, moi j'étais avocate.
On regardera aussi le film, je le mettrai dans les notes de l'épisode parce que je ne l'ai pas vu, mais du coup ça m'intrigue.
C'est une comédie féministe.
Tu changes de vie, Caroline, alors que tu es heureuse, tu en es sûre, tu te crois pas heureuse, hein. avec du recul tu l'étais, t'étais heureuse, parce que souvent il y a parfois des perceptions, tu te dis ah ouais j'étais heureuse, mais en fait j'étais pas heureuse.
Non, j'étais très heureuse.
Là t'étais heureuse, mais tu changes justement de métier, et c'est vraiment le cœur aussi de ton podcast, hein. C'est vraiment la reconversion, comment passer ce cap de reconversion. Toi, le déclic, c'est le décès de ton grand-père. Comment tu passes de l'idée à l'action ? Donc, tu nous dis qu'il se passe 6 mois. Est-ce que tu te souviens un peu du processus mental et dans les actions que tu entreprends pour aller dans ce nouveau métier?
En fait, c'est pas juste la mort de mon grand-père. La mort de mon grand-père était un déclic qui fait que je me rends compte qu'il faut que je sois heureuse, que j'ai qu'une vie, etc. Et comme j'ai une image pas très joyeuse, mais qui est le crash d'avion, un crash d'avion, c'est souvent parce qu'il y a plein d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu tous ces éléments qui ont déjà eu lieu, mais comme ils n'étaient pas tous au même moment, il n'y a pas eu crash. Et c'est au moment où ils arrivent tous au même moment que... Moi, c'est un peu pareil. C'est plein d'éléments qui vont se mettre en place et qui vont, comme on dit parfois, l'alignement des planètes. Et la mort de mon grand-père, c'est un des éléments. Mais parmi les autres éléments, il y en a un autre qui est que je rentre dans une troupe d'avocats qui s'appelle l'UJA, Union des jeunes avocats. Et donc, tous les ans, on écrivait un spectacle, et tous les ans, je m'éclate sur scène à écrire des vannes, mais sur la vie des avocats à Paris. Donc, c'était pas avocat, franchement, les vannes sur l'article 700, je suis pas sûre que ça te fasse rire. Donc, c'est très potache, c'est très entre soi d'avocat, mais c'est très sympa. Il y a un effet de troupe, et je suis sur scène, et je fais rire les gens. Et je prends du plaisir à faire ça, vraiment. Mais à ce moment-là, tu m'aurais dit, un jour, tu vas tout quitter pour faire ça. J'aurais explosé de rire. J'aurais dit, va consulter. Parce que c'était vraiment un plaisir, comme on joue au tennis.
Ouais.
Sauf que ce truc-là va grandir, devenir de plus en plus important. Jusqu'au point culminant, je vais plus vite, mais je me retrouve avec des avocats sur une scène du Zénith présentée par Dubosc et Rousseau, où il y a plein de gens qui font des sketchs. C'est que des duos. Il y a notamment Omar et Fred, il y a plein de gens. Et il y a nous, les avocats, puisqu'ils voulaient qu'il y ait une troupe d'avocats pour... voilà. Et on va prendre un bide intersidéral. C'est-à-dire que tout le monde fait rire, sauf nous. Nous, c'est le zénith entier, donc c'est 6000 personnes qui se taisent. Voilà. Pas un rire, rien. Je crois que dans l'histoire des zéniths, ça doit être un des plus gros bides. On sort de scène. Mes potes avec qui j'étais sur scène veulent s'enterrer, creuser un tunnel jusqu'à Paris pour pas affronter la foule. Et moi, je suis... shooter à l'héroïne, c'est-à-dire que je suis comme ça, le terme hystérique là pourrait venir de l'utérus serait presque justifié. Je sais pas, j'ai le corps tellement plein de cette chimie que j'ai du mal à contenir ma joie. Et eux ils comprennent pas, hein, parce que eux ils sont dévastés. Et moi je suis comme ça, c'est dingue, on vient de faire un zénith. Et je me dis juste j'ai fait un zénith. Bref, après on est rappelé sur scène pour saluer. Eux, ils sont au fond, moi, je suis devant, tout le monde applaudit. Et je sais très bien que c'est pas pour moi, hein, qu'ils applaudissent. Je sais que j'ai pris un bide. Mais je prends quand même les applaudissements comme une espèce de voleuse, tu vois, en mode, ouais, merci. Le soir, on fait la teuf, je danse toute la nuit. Et le lendemain, on reprend le train pour aller à Paris, retrouver lundi matin. On est lundi, c'était dimanche soir. Lundi matin, je suis dans le train pour rentrer à mon cabinet. Et c'est dans ce train que va avoir lieu le moment où je vais dire cette phrase, je vais dire, oh, en fait, c'est ça que je veux faire. Et un de mes copains va dire, bah, vas-y, fais-le. Je fais le n'importe quoi. Et c'est la phrase qui va commencer. Et 3 semaines plus tard, je colle ma dème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette phrase, je me suis dit, il a fallu du temps, mais au début, c'est vas-y, fais-le, bien sûr, 14 ans de ma vie, je foutrai à la poubelle, mon boulot, mon appart, je fais comment pour payer mon loyer, bah t'es dingue. Et après, j'ai, au fond de moi, il y a une autre voix qui fait, oui, mais si tu voulais, tu pourrais. Ouais, bien sûr, je pourrais, bien sûr. Je pourrais aussi partir en Inde, sur un éléphant volant. Non, mais ça, tu pourrais pas, alors que ça, tu pourrais démissionner. Oui, évidemment, techniquement, je peux démissionner, mais qui ferait ça?
Ouais.
Bah moi. Il va falloir 3 semaines. Franchement, 3 semaines, je pense, parmi les plus pénibles de mon existence. Parce que là, tu passes du « oui, je le fais » à « ça va pas, ah, je le ouais. fais pas ». Non, je le ouais. fais, surtout pas. Bon. Et puis, bah, je vais le faire.
Et tu le fais. Et donc, du coup, le lendemain, tu te retrouves chez toi.
Non, parce que t'as un préavis quand même.
T'as un préavis, ouais.
J'ai un préavis où, ce qui me permet de... Tu vois, arrive le jour 1 après le préavis. Et là, c'est plus compliqué. Il n'y a plus de réveil, il n'y a plus rien. Et là, c'est bon, bah, ok. Cette petite sensation d'avoir appuyé sur, tu sais, sur un bouton qui a fait tout sauter. Et je fais, bon, bah, vas-y, maintenant, refais les Legos. Qu'est-ce qu'on construit? Oh, je sais pas.
Tu le ressens comme une prise de risque à ce moment-là?
Ah ouais, total. Hein, bah, je repars à zéro. En plus, je me lance sur la scène. J'ai 10 ans de plus que tous les gens qui y sont. Puisque moi, j'ai déjà une carrière. Donc, et comme une bonne petite étudiante bien formatée comme j'étais, je me dis, ok, il faut que je m'inscrive au cours Florent.
Ouais.
Et c'est comme ça que je débarque au cours Florent. Et que je m'inscris avec des gens qui sortent du bac.
Comment tu
j'ai le même âge que la prof.
Comment tu choisis ces cours Florent? Moi, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans et j'ai envie de reprendre. Enfin, c'est vraiment une passion aussi, donc ça me parle particulièrement. Comment tu choisis le cours Florent parmi tous les cours qui existent, le cours Simon, pour ceux qui nous écouteraient, hein, qui voudraient vouloir devenir comédien?
Je choisis les cours Florent parce que je crois que c'est le seul dont je connais le nom. Et surtout qu'il faisait des stages, et donc l'histoire va commencer par un stage.
Okay.
En fait. Je vais me prendre un stage d'été d'une semaine où ils nous rangent par âge. Donc là, je suis dans le groupe des vieux. Et c'est très sympa, vraiment. Et c'est le fameux prof qui va me dire sincérité avec qui je vais commencer à enlever ma gêne. Il était vraiment chouette, ce prof. Et à la fin de ce cours, il me dit, t'as vraiment un truc, ça serait con d'abandonner, tu devrais t'inscrire à l'année. Et c'est comme ça que ça part. Et puis après, le cours Florent, il faut dire la vérité, tu peux y entrer si tu payes.
Ouais.
C'est pas comme certains, comme le conservatoire, etc., où t'as des concours d'entrée et voilà. Non, le cours Florent, c'est tu payes, tu rentres. Et moi, j'avais du temps et j'avais de l'argent. Donc, parce que l'avantage quand t'es avocate, comme j'étais dans un gros cabinet américain, c'est que tu bosses H24, week-end compris. Tu prends une semaine de vacances par an et tu gagnes très bien ta vie, mais du coup, t'as pas de temps pour le dépenser, l'argent. Donc, j'avais de côté et je vais découvrir une vie surréaliste, puisque bah, du coup, je travaille plus. Donc, je vais au café de Flore. Je me souviens de ça, ce que je
fais.
Dans ma tête. De banlieusard. Hein. Je viens de Seine-et-Marne, moi.
Ouais.
Donc, le café de Flore, c'est là où vont les artistes. Donc, je vais au café de Flore. Je commande un café. J'hallucine du prix, d'ailleurs. Je m'en souviens encore. Mais je commande un café. J'ai acheté un Mac parce que les artistes sont plus sur PC sans sur Mac. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est des clichés, mais j'étais pleine de clichés.
Bah, ouais.
Et je me dis, l'inspiration va venir ici. Simone de Beauvoir, parle-moi. Ça va bien se passer. Bon, bien sûr, l'inspiration ne va jamais venir au café de Flore. Mais je vais quand même avoir ce truc qui est de regarder la vie. Il est 14 heures. La rue est pleine de monde, le café est plein de gens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui branle tous ces gens? Parce que moi, jusqu'à ce que je démissionne,
t'étais tout
jamais,
le temps, ouais,
jamais été là dans la rue à 14h, j'étais au bureau,
bien
au
sûr.
Palais. Et là, je vois des gens sur les terrasses, qui prennent des cafés et tout. Je me dis, oh, c'est chômé. J'ai presque envie d'aller voir. Mais excusez-moi, du coup, vu qu'il est 15h et qu'on est mardi, c'est quoi votre vie?
Voilà. Et tu écris, du coup, tu commences à écrire tes premiers spectacles.
Ouais, bah là, je me lance.
Ouais.
J'ai compris que j'écris.
Tu sais, toi, que tu veux écrire pour te produire à ce moment-là, enfin, pour faire tes propres spectacles, ou que tu veux être comédienne, tu as un plan dans ta tête?
Ah, je veux être humoriste,
ouais.
Je veux écrire mes sketchs, et je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'est il faut que tu trouves un producteur.
Voilà. Ok.
Quelqu'un qui sait comment ça marche. Et évidemment, un producteur, ça se trouve pas. Donc, je vais me dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais me produire toute seule. Donc, je vais me renseigner. Déjà, je trouve un petit théâtre qui me dit ben pour ouais je loue des créneaux, donc là aussi tu payes, et mais pour ça il faut avoir une structure. Ah d'accord, c'est quoi comme structure? Bah une société avec la licence de producteur de spectacle. Ah d'accord, Google, comment obtient-on une licence de producteur de spectacle? Je me rends compte qu'il faut une structure, donc bah je prends la moins lourde, je fais une loi 1901, je mets les économies dedans et j'obtiens la licence de producteur. C'est une demande en fait, hein. C'est rien de très compliqué. Et puis, une fois que j'ai ma licence, ben, je loue le théâtre. C'est un 40 places. Je crois que c'était 100 euros par soir de minimum garanti. C'est-à-dire que avec la billetterie, les 100 premiers euros sont pour la personne qui a le théâtre. Et si tu as 50 euros, tu dois payer 50. Et si tu as 0, ben, tu payes 100. Parce qu'on était plus proche de 0 que de 100. Hein, on va pas se mentir. J'ai même des soirs où il y avait 0 spectateurs dans la salle. Ouais, ouais. Donc là, tu payes.
Ouais, j'ai interviewé Jérémy Crêteville, je sais pas si tu connais sur le podcast, et c'est ce qu'il me disait. Parfois, voilà quoi, il y avait personne, et personne ne riait, mais c'est pas grave. Il repartait le lendemain. Donc c'est intéressant, en fait. Toi, tu poses un jalon, en fait. Tu bookes ta salle, et donc du coup, tu sais que, enfin, du coup, tu dois y aller, quoi, même si t'as pas forcément des textes.
Ça commence
aboutis.
Une fois par semaine, et puis trois fois par semaine, et puis après, les mecs des blancs manteaux me voient, me proposent un créneau au blanc manteau. C'est la première fois que là, je vais avoir des vrais billets avec des vraies places. Donc là, il n'y a plus de chapeau, c'est les gens qui payent, enfin souvent qui ne payent pas. Mmh. Je vais perdre énormément d'argent au blanc manteau parce que c'est trop cher par rapport à ce que je rapporte. Et puis après, Avignon, Festival d'Avignon, où là, c'est là où je vais vendre première fois mon spectacle en province. Donc je vais sortir de Paris et commencer à rentrer un petit peu d'argent dans la boîte. Et puis le deuxième spectacle avec là l'explosion qui s'appelait Quitte la robe. Quand j'arrive au Palais des Glaces, et là on va rester un an au Palais des Glaces, on va faire 300 000 spectateurs, et voilà.
C'est quoi ton processus créatif, ton processus d'écriture?
Oh bah là, le processus créatif, c'était un jour je ferai l'Olympia, tu vois, c'est la maison bosse, c'était l'Olympia, je passais régulièrement devant l'Olympia, je disais un jour je jouerai là. Et personne ne me croyait. Je disais toujours, je serai à l'Olympia, et j'ai mis 6 ans pour arriver à l'Olympia. Voilà, j'ai commencé en 2010, j'ai joué sur l'Olympia en 2016. Je compte pas la première partie que j'avais fait avec les Baudins, ce qui était quand même déjà un vrai truc, mais qui avait fait que mettre une bûche dans le feu de l'envie d'y être pour moi. Mais j'avais adoré faire cette première partie, parce que j'ai marché sur la scène de l'Olympia. Et donc après, le processus créatif, je dis toujours aux gens qui me demandent comment faire pour écrire. Moi, je pense sincèrement que j'ai appris cette méthode dans les concours d'éloquence. C'est un papier, un crayon ou un ordinateur pour ceux qui écrivent sur l'ordi, et rien d'autre. Et tu restes devant ta feuille, et t'écris. Et au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont sortir. Mais ça peut être long, hein. Mais moi, je dis toujours, il faut rester 5 heures. Tu te bloques 5 heures dans ton... Et tu verras, au bout de 5 heures, tu auras des trucs. C'est sûr. Quoi, je sais pas. Des trucs bien, des trucs moins bien. Mais après, moi, j'ai l'esprit d'escalier. Donc, je sais pas, j'écris, bah, j'ai rien à dire. Pourquoi j'ai rien à dire? Parce que je m'ennuie, parce que je sais pas. Parce que, ah ouais, pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi tu sais pas? Et boum, 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 boum. Effet boule de neige. Et à un moment donné, tu trouves un film, un truc drôle. Et puis, tu tires ce fil. Et puis après, la première version du spectacle avec la dernière que tu joues, elle n'a vraiment plus grand-chose à voir. Il y a des sketchs entiers qui ont disparu et des sketchs entiers qui sont réapparus.
Tu as des gens autour, des mentors hein, qui t'épaulent, qui te relisent, qui t'écoutent, qui sont là pour t'aider ?
Non, moi je suis une des rares humoristes, je pense, qui écrit entièrement toute seule. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que je continuerai parce que, pour le coup, il y a des moments... pénible et pas joyeux dans l'écriture, alors qu'à deux, en général, tu trouves des vannes en te marrant. Et ça, c'est un truc qui me manque un peu, mais c'est aussi la facilité d'écrire ce que je veux, quand je veux, où je veux. J'ai déjà vu aussi les problèmes d'avocat, ça, mais tu sais, les engueulades entre co-auteurs, ça, moi, j'ai pas de problème. Je suis metteuse en scène, maintenant, je suis même productrice de mon spectacle, donc vraiment, je suis une espèce de petite marmotte ou un castor, tu vois, qui construit sa maison tout seul.
On se souvient
mélangé à une loutre.
Ouais. On se souvient souvent des premières fois à tous les niveaux. Toi, comment tu te sens pendant ta toute première scène, avant, pendant, après? Comment ça se passe?
J'ai envie de mourir. J'ai tellement envie de mourir. La première fois avant de monter sur scène, c'était un trac qui est surréaliste. Les premiers rires, ça va, mais je me rends bien compte que entre chaque rire, il y a un bon quart d'heure, donc ça, c'est pas possible. Il va falloir que je mette plus de vannes, et puis voilà. Mais c'est ce que je veux. Malgré tout, je sors de là. Alors, j'ai pas pris un shoot d'héroïne comme j'ai pris la première fois. Bah d'abord, en fait, ces shoots que tu prends qui sont liés au stress, c'est ton corps qui produit, comme la peur, comme tout ça. En fait, ton corps produit lui-même. Alors, je dis shoot d'héroïne pour l'image.
Ouais, mais, bien sûr.
C'est l'adrénaline. C'est, je connais pas bien la chimie du corps humain, mais qui fait que quand tu sors de scène pendant une heure, tu peux pas dormir parce que ton corps, il doit gérer tout ça, il doit évacuer tout ça. Et puis après, avec maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis sur scène. Il faut des éléments extraordinaires pour que je me retrouve dans cet état-là. C'est-à-dire que j'ai toujours du stress, mais j'arrive un peu beaucoup mieux à le gérer. Mais dès que je vais arriver avec un nouveau spectacle, dans un an, je pense, je sais que je vais repartir avec le stress du début du nouveau spectacle, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Sarah Bernard, hein, qui avait rencontré une jeune fille qui lui disait « Vous avez le trac ?» Elle dit « Pas du tout, moi, j'ai pas le trac. » Et Sarah Bernard de lui répondre « Ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. » Donc j'avais trouvé cette phrase géniale et voilà, mais c'est une bonne nouvelle d'avoir le track.
Ouais,
qui monte pas sur scène sans avoir le track, ça n'existe pas.
Bien sûr, faut que ce soit du bon track, quoi. Il y a un moment où voilà, si ça te dépasse en tant que, enfin, et c'est drôle je trouve, parce qu'en tant qu'avocate, c'est pour parler un petit peu de la gestion en fait des émotions. Je trouve qu'en tant qu'avocate, tu dois vraiment être dans le self-control en fait de tes émotions. Voilà, tu touches à la vie des gens, des drames, et au contraire sur scène, c'est vraiment un endroit, un espace où t'es vraiment quand même, tu dois révéler tes émotions, tu dois les amplifier. Comment t'es passé de l'un à l'autre en fait? Comment ça...
Je sais pas si tu révèles ou tu amplifies tes émotions, parce que j'ai toujours dit aux gens, sur scène t'as l'impression que tout est fluide et facile, alors que tout est calculé très... Enfin moi, en ce qui me concerne, chaque mot est choisi, chaque... En plus je me mets en scène, donc chaque gestuelle va avec, accentuée, donc c'est très très précis en fait. Et à partir du moment où tu trouves que ça a l'air simple, ça veut dire que c'est réussi.
Ok. Il y a Anne Cazobon qui me racontait sur le podcast que elle c'est une journaliste qui faisait beaucoup de chroniques radio, qui me disait qu'elle parlait dans un micro pour avoir l'amour de son père. Toi, est-ce que t'as le sentiment quelque part d'avoir et puis il y a beaucoup d'artistes qui recherchent quand même la lumière pour aussi recevoir de l'amour, que ce soit de ses proches ou que ce soit du public. Est-ce que quelque part t'as un sentiment de recherche d'amour des autres quand t'es sur scène et quand tu fais ce métier?
Évidemment, mais moi, l'enfance dont je t'ai parlé, c'était que ça, hein. J'avais besoin d'être aimée et j'ai un manque d'amour extraordinaire et je suis un puissant fond en fait qui a besoin d'être aimé. Des fois j'essaie de le contrôler, ce manque là mais c'est comme ça, ça fait partie de moi. Je sais d'où ça vient, je sais pourquoi. J'essaye du coup de travailler là-dessus, mais c'est compliqué. Mais je travaille dessus parce qu'avant, les gens qui m'envoyaient des messages pour me dire que je faisais que de la merde et que j'étais trop conne et que je ferais mieux de retourner en tant qu'avocate, ou que j'étais déjà nulle comme avocate, je suis encore plus nulle comme humoriste, avant tout ça, ça me faisait de la peine. Aujourd'hui, je me protège, j'évite ces gens, etc. Et je me concentre sur les gens à qui je fais du bien et qui m'aiment bien. Et d'ailleurs, dans ma vie perso, c'est ce que j'ai décidé de faire aussi aujourd'hui. Je coupe les liens avec toutes les personnes nocives. Des personnes qui ne m'apportent pas le minimum de bien-être qui fait que je vais leur consacrer du temps et de l'énergie. Et j'enlève toutes ces personnes de ma vie. Je ne m'entoure que de gens qui me correspondent, qui sont sains, qui m'aiment, que j'aime. Et la vie est bien plus jolie, hein, vraiment. Mmh. C'est magnifique comme système.
Justement, j'allais te demander le poids de l'entourage. Comment ont réagi les gens, tes anciens collègues qui te voyaient sur des affiches, qui te voyaient monter, tes parents aussi?
Ça dépend de l'étape. Hein. Au début, on te prend pour une folle. Puis les gens viennent te voir par curiosité, ils voient que t'es dans une petite salle, que tu fais un peu pitié, hein, d'avoir croire à ce rêve qui paraît surréaliste quand tu dis je vais faire l'Olympia alors que tu remplis même pas une 40 places. On dit ouais bien sûr, oh là là, pauvre. Et puis après avec la notoriété, le fait que tu fais les grandes salles, que ceci, que ça marche, il y a des phénomènes assez étonnants de gens qui ne m'aimaient pas et qui d'un seul coup se révèlent être mais si on a toujours été amis. Je suis bon, je savais pas.
C'est drôle. Ouais. Il y a un événement, un spectacle qui t'a fait basculer de l'ombre à la lumière. Comment ça s'est fait, ça, ce...
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Caroline Vigneault quitte la robe, où je raconte ma reconversion, et le Palais des Glaces, la grande salle du Palais des Glaces, ça va changer beaucoup de choses, et ça va déboucher sur l'Olympia. C'est avec ce spectacle-là que je vais faire deux Olympias. Avec le nouveau Croque la Pomme, j'en ai fait 4. Et avec le prochain, on va savoir. Bon, c'est long.
Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui, Caroline?
Mon mode de rémunération est comme... Enfin, franchement, là où je gagne le mieux ma vie, c'est les droits d'auteur. Hein. C'est une partie de la recette. Comme c'est moi qui écris, Il y a une société de gestion qui s'appelle la SACD qui perçoit un pourcentage de la recette qu'elle reverse aux auteurs. Et comme c'est moi les auteurs, ben, je touche une partie de la recette. Je ne sais pas quel est le pourcentage, je ne me souviens plus à Paris. J'ai envie de dire, c'est entre 9 et 12%, je crois.
Ouais. Et les...
Ça, c'est pour tous les, quel que soit, enfin, tous les auteurs qui sont inscrits dans ces sociétés de gestion gagnent leur vie comme ça, en fait. Parce que quand tu peux écrire une pièce et ne pas la jouer. Et après, j'ai aussi un cachet de comédien.
D'accord.
Qui vient s'ajouter à ça, parce que je joue aussi sur scène. Et aussi un cachet de metteuse en scène, puisque je me mets en scène.
Ok. Et le cinéma, comment ça s'est présenté à toi ?
Bah, le cinéma, c'est très peu présenté à moi. Hein. J'ai toujours rêvé d'en faire et j'ai fait des petits rôles comme ça dans des films. Le premier vrai rôle que j'ai eu, c'est dans À fond, un film de Nicolas Benamou avec José Garcia et André Dussolier notamment, où je jouais la femme de José Garcia d'une famille qui était dans une voiture bloquée, dont l'accélérateur est bloqué à 160 km/h. Et ça, c'était une très belle expérience, c'était très sympa. Et puis après, je me suis dit, bah, j'ai envie d'écrire mes propres films. Donc, j'ai écrit un premier scénario, personne n'en a voulu. J'en ai écrit un deuxième, personne n'en a voulu. J'en ai écrit un troisième, personne n'en a voulu, sauf Amazon. Parce qu'on m'a dit, non, c'est beaucoup trop intelligent pour une comédie. Ça n'intéresse personne de savoir qui est Olympe de Gouges. Et Amazon, ils ont dit, mais c'est exactement ce qu'on cherche, une comédie avec du fond. C'est-à-dire que tu te marres et t'apprends des trucs. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon premier film, où je suis autrice, actrice, réalisatrice. Hein, donc, si vous aimez pas, c'est pour moi. 99 acteurs, 10 époques différentes, 3000 figurants. Ah, c'était une expérience folle et merveilleuse. Et aujourd'hui, j'ai très envie de réaliser un nouveau film. Mmh.
Voilà. C'est quoi la recette du succès de Caroline Vigneault ? Qu'est-ce qui a fait la diff avec ceux qui en rêvent.
Alors déjà, c'est j'utilise une expression, c'est define, succès. Définis-moi le succès, parce que le succès pour un n'est pas le même que le succès pour l'autre.
C'est
moi,
ça.
Déjà, mon premier succès, c'était ce que j'étais fixé, c'était l'Olympia. Une fois que tu es arrivé à l'Olympia, OK, c'est quoi ton prochain succès ? C'est de réaliser un film, ça y est, je l'ai fait. Quel est mon prochain succès ? Et moi, je marche par étapes. C'est-à-dire que je n'ai pas un succès dans ma vie, et un succès qui va évoluer. Et une fois que je l'ai atteint, OK, ça, c'est fait. Maintenant, allez, prochaine montagne. Et j'adore ça, hein. Mais je pense que la clé, à mon sens, c'est de ne jamais abandonner, même quand tu te dis « j'y arriverai jamais ». Enfin, après, je dis ça, je mets tout de suite un bémol, hein. C'est-à-dire que ce sont des rêves qui sont malgré tout réalisables. Ce qu'on disait tout à l'heure, si mon rêve c'est de voler au-dessus de l'Himalaya sur un éléphant rose, je pense que j'aurai du mal. Ou de devenir président des États-Unis, sachant que pour être président des États-Unis, il faut être natif américain, ce n'est pas possible. Donc je ne vais pas choisir ce rêve-là. En revanche, même s'il est énorme et qu'il paraît inatteignable, s'il est matériellement, techniquement possible, là, il faut y aller. Autre exemple, si à 50 ans, tu décides de devenir championne olympique de gymnastique rythmique, je ne pense pas que tu y arriveras. Je le dis franchement.
Il y a des difficultés auxquelles tu t'attendais pas dans ce métier, des désillusions, des trucs où tu t'es dit, ah ouais, qui auraient pu d'ailleurs te faire abandonner le métier.
Le plus difficile, c'est le désamour du public. Et donc, c'est pas tant le désamour que l'absence d'amour du public. C'est-à-dire que t'écris les trucs et puis, bah, y a personne dans la salle. Je l'avais anticipé, je savais que c'était difficile. Mais d'abord, tu sais pas quand ça va s'arrêter. Tu sais pas si ça va s'arrêter. Et c'est ça qui est dur. C'est tenir. Où on t'annonce ce soir, bah, ils sont deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues ou pas? Et moi, on m'a toujours dit la règle, c'est quand y a plus de monde dans la salle que sur scène, tu joues. Sauf qu'en one, bah, ça va très très vite. À partir de deux, tu joues. Voilà, puis moi, de toute façon, je payais, donc je préférais jouer même pour deux. Ça me faisait travailler, puis ça... Ah là, c'est compliqué pour faire rire les gens quand ils sont que deux. Hein. Accroche-toi.
Ouais, c'est clair. T'es maman, toi, de deux garçons. Tu caches pas sur ta maternité, mais par contre, tu ne les inclus pas du tout dans tes sketchs. Tu n'en parles pas, tu ne les montres pas. Pourquoi cette raison ?
Bon, parce que moi, j'ai choisi cette vie, mais pas eux. Et qu'aujourd'hui, avec Internet... Alors, je les inclus pas, c'est pas vrai, parce qu'ils m'ont fait une demande, et comme je suis quand même sur les routes, en tournée, enfin c'est compliqué d'avoir une maman qui est artiste. Alors, mais ce qui a des avantages évidemment, c'est qu'ils connaissent l'Olympia, ils sont montés eux-mêmes sur la scène de l'Olympia, les coulisses d'un théâtre pour eux, ça n'a vraiment mais aucun secret. Ils sont déjà venus en tournée avec moi, donc ils savent tout ça, ce que d'autres enfants ne connaissent pas, évidemment, moi, ce que je connaissais pas à leur âge. Donc ils ont une ouverture sur certains trucs, mais d'un autre côté, leur maman, elle est souvent pas là, elle est souvent sur les routes. Et donc là, on a fait des vidéos, notamment sur TikTok et que je mets aussi sur Instagram. Et je les ai inclus dedans, ce qui nous permet d'avoir des moments à nous. Alors, c'est des trucs qui sont scriptés, hein, donc on écrit en, où ils interviennent, ils lisent leur rôle, ils ont choisi leur prénom, et tout ça. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'eux, ils sont très contents de le faire, et on s'amuse beaucoup, et ça nous a, enfin, ça crée un truc maman-enfant. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est du premier degré, alors que c'est monté, hein, que c'est des vannes, hein, que je suis humoriste, que c'est écrit. Et comme je me moque de mes enfants, que je, et d'ailleurs, c'est hashtag mère indigne. Et ben, il y a des gens qui disent, mon Dieu, vous êtes affreuse avec vos enfants, les pauvres, c'est ignoble de faire ça à ses enfants. Donc, et il y a des, d'autres personnes qui vont leur répondre en disant, mais enfin, c'est du faux, c'est du second degré. Et donc, moi, ça m'amuse beaucoup de me rendre compte que des gens peuvent prendre ça au premier degré. Et ça fait rire mes enfants aussi.
Ouais.
Parce qu'ils lisent les commentaires, je dis, regarde ce qu'on dit de toi, que tu es un pauvre petit garçon martyrisé par ta maman, et il explose de rire, et il dit, mais dis-lui, maman, que je suis comédien.
Ils sont fiers de leur maman.
Bon, ça serait à eux de demander ça, c'est pas à moi de répondre.
Mais ils sont contents, ils sont...
Ils n'ont pas le choix, ils n'en ont pas d'autres.
Et il y a quelque chose aussi, et ça, ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et puis après, on parlera de ton podcast et on finira par les petites questions de la fin. Quand j'ai fait des recherches sur toi pour préparer cette interview, j'ai tapé Caroline Vigneault et j'aime bien voir sur Google les mots qui sortent. Et c'était Marie en deuxième. Je trouve ça dingue, moi, personnellement. Également, ça obsède. Il y a encore cette injonction, je crois, pour être heureuse, il faut être en couple.
T'es une femme, tu peux pas être heureuse toute seule.
Exactement.
Moi, j'ai divorcé, j'en parle dans mon spectacle, donc j'ai divorcé. Et c'était l'angoisse de ma mère. Ma mère qui, tous les jours, me dit, t'as rencontré quelqu'un? Je vais très bien, en fait. C'est ça ta question. Je vais très bien. Donc, on peut bien. Les gens sont curieux. Je trouve ça fou qu'ils veulent savoir si je suis en couple ou pas. Je vois pas parce que ça changera leur vie. Mais avant, il y avait le premier truc, c'était mon âge. Les gens voulaient absolument savoir quel âge j'avais. Donc, j'en ai eu marre. Je l'ai mis sur Wikipédia avec ma date de naissance. Comme ça, maintenant, tu veux connaître mon âge, tu l'as en premier. Je m'en cache pas. Je viens juste d'avoir 48 ans. Et je suis née en 75, le 27 janvier. Donc voilà, j'ai aucun problème avec mon âge. Et ça va. Et en plus, il va augmenter. L'année prochaine, j'en aurai 49. Et celle d'après, 50.
Waouh!
Ça me paraît complètement dingue. Mais je le vis très bien, ça veut dire que j'ai la chance d'être encore en vie à 50 ans, si jamais j'y suis. Et maintenant, c'est ça, c'est mari, couple. J'ai même j'ai vu des trucs passer cet été dans les trucs Voici, machin. Caroline Vigneault est-elle en couple? Mais bon, moi, de toute façon, je réponds à aucune de ces questions. Je suis là pour faire rire les gens, pas pour parler de ma vie intime.
Exactement.
Qui n'a absolument aucun intérêt en plus.
Et bon, on peut être heureuse aussi, seule. Ça, c'est aussi une injonction qu'on pense encore. Tu as créé ton propre podcast sur la reconversion que j'ai écouté hier, Coachcast. Je trouve que c'est franchement hyper généreux. C'est un don de toi. Enfin, partager ton savoir, c'est génial. Et ton expérience surtout. Pourquoi tu as créé ce podcast?
Écoute, je faisais dans la vie, généralement, les gens me posent souvent la question, vu que j'ai changé de vie et que c'est un changement assez radical entre avocate et humoriste, c'est quand même quelque chose d'assez radical. Et du coup, ça nécessite beaucoup de, ce que je disais tout à l'heure, de courage et d'affronter la peur. Hein. Quand je dis courage, encore une fois, c'est ça. Et donc, beaucoup de gens me posent des questions, m'envoient des messages dans ma vie perso aussi, mes amis, ça. Et donc, je passais mon temps à le faire et j'adore aller pousser, mais pourquoi tu le fais pas? Vas-y, réponds-moi, etc. Et donc, ça m'intéressait. J'ai fait beaucoup de podcasts en tant qu'invité et je trouve l'exercice très agréable, comme celui qu'on est en train de faire. Merci d'ailleurs m'avoir invité.
Avec plaisir.
Et je me suis dit, tiens, et pourquoi je ne créerais pas un podcast où je vais donner le micro à des gens? Parce que moi, on m'invite parce que je suis Caroline Vigneault. Et je me suis dit, ce serait bien de donner le micro à des gens qu'on n'invite jamais dans des podcasts. Donc, ce serait vraiment n'importe qui a envie de partager 20 minutes en face à face. Pendant 20 minutes, on va discuter sur quel est ton rêve. D'ailleurs, j'ai invité jusqu'à présent des gens qui ont envie de changer de vie. Je crois que je vais peut-être même l'agrandir à des gens qui ont changé de vie pour donner aussi les clés à d'autres gens, de dire c'est possible, la preuve. Moi, j'arrête pas de dire c'est possible, la preuve, je suis la preuve vivante. Si moi, j'ai réussi, vous pouvez le faire. Et donc, j'avais envie de créer un projet. En plus, le podcast, tu le sais très bien, c'est ce qui est génial, c'est que t'es totalement libre. Je l'ai appelé Coachcast by Caroline Vigneault parce que j'en avais envie. J'ai choisi le visuel que j'avais envie de choisir. Je l'ai mis sur les plateformes que je voulais. Enfin, tout est créé selon mon propre désir. Et il n'y a pas un distributeur, un producteur, c'est moi qui produis tout. Donc, c'est vraiment mon bébé, mon objet. Et je l'ai fait avec ce que j'avais envie d'apporter aux gens. Et si je peux aider, et c'est déjà le cas, puisque la dernière fois, le dernier podcast que j'ai enregistré, la personne qui était là m'a dit, moi, c'est en écoutant le podcast de la semaine dernière que j'ai décidé de faire ça, ça et ça. Et ça m'a touchée, parce que je me dis, bah tiens, si j'ai touché une personne, déjà, voilà, le contrat, il est rempli, si j'ai pu aider une personne. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai une passion pour Sœur Emmanuelle, et je suis loin, loin, loin d'être Sœur Emmanuelle. La preuve, façon, pour faire du one, je pense qu'il faut une grosse part d'égoïsme et d'égocentrisme. Mais pour autant, je peux peut-être, tu sais, c'est comme l'empreinte carbone. C'est si je peux aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice pour que on vive dans un monde meilleur, même si c'est une toute petite pierre, c'est l'histoire du colibri, quoi. La forêt qui flambe, tous les animaux qui regardent comme ça, le colibri qui va au lac, qui met une goutte d'eau sur la forêt, et les autres disent, qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Il dit, oui, ça sert à rien, mais au moins, j'aurais fait ma part.
Ouais.
Parce que je fais, ça sert peut-être pas à grand chose par rapport au monde, à la planète qui va pas super bien, mais c'est déjà ça. Voilà.
C'est quoi les principaux conseils que tu divulgues, que tu as divulgué jusqu'à présent, vraiment deux, trois, pour qu'on s'attende à, voilà, savoir ce qu'on va trouver?
Bah, je donne des conseils, des tricks, des ouais. tips que j'ai. Je parle, un des derniers que j'ai fait, c'est sur le fameux pile ou face que j'ai utilisé moi et que je donne aux gens comme truc parce qu'il est vraiment efficace, qui est quand tu dois prendre une grosse décision de ta vie, tu n'y arrives pas parce que on devient fou, hein, à Paris, sur à prendre cette décision. Il faut la jouer à pile ou face. C'est très simple, tu prends une décision, pile, je change de vie, face, je change pas de vie, pile, je change de vie, face. Et c'est l'angoisse, parce que c'est ok, je vais jouer ça pile ou face, tu lances la pièce, tu retournes, tu regardes, et là, tout de suite, analyse ce que tu ressens. T'es content ou t'es dégoûté. Et ça permet de tromper son cerveau qui n'arrive pas parce qu'il est tellement noyé dans les pour, les contre, la société, les trucs, les principes, tout qui se mélange, on n'arrive plus à écouter son intuition. Et là, avec pile ou face, d'un seul coup, ton cerveau, en une seconde, il te dit t'es content, t'es pas content, et donc tu vas te permettre de pouvoir te reconnecter à ton intuition.
Hyper intéressant.
Et des trucs comme ça, j'en ai plein parce que j'ai changé de vie maintenant il y a presque 15 ans, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment un recul là-dessus sur les erreurs que j'ai faites, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, ce que j'ai bien fait de faire et puis ce que j'ai pu comprendre avec le recul. Donc je me suis dit, bah, si ça peut aider des gens. Et on est en train d'écrire un bouquin là-dessus, ce que m'a demandé Flammarion, tu vois, pour pouvoir aider les. Et j'ai trouvé ça génial parce que quand j'ai voulu changer de vie, je suis allée à la bibliothèque, à la librairie, pardon, et j'ai acheté des bouquins de changement de vie, il y en a plein. Mais je voulais un truc concret, moi, et j'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de choses sur le développement personnel, etc. Et moi, ouvre ta fenêtre, regarde le positif et tout, très bien, mais moi, je fais quoi? Donc, j'ai décidé d'écrire un bouquin avec des trucs assez concrets, encore une fois, pareil, pour aider les gens, parce que c'est très important. Quand je l'ai dit, j'étais avocate, j'étais heureuse, et c'est vrai. Mais j'étais pas centrée. Aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie et centrée. Et ça change la vie, c'est-à-dire que ma vie au quotidien est un kiff. Je vais travailler en kiffant. Et c'est vraiment le truc qu'on le dit. C'est Confucius, un des premiers, ça remonte, hein, qui le dit, trouve un métier que tu aimes et tu n'iras plus jamais travailler. Donc si votre passion, c'est la boulangerie, bah, apprenez à faire, je sais pas, de la boulangerie et puis voyez comment vous pouvez le faire pour vous dire, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Hein, j'y vais.
Centré, c'est ce qu'on appelle l'alignement dans le podcast et c'est magique parce que c'était ma dernière question avant les petites questions que je pose en vrac. Donc c'était super. Je rejoins totalement ton point de vue. On va finir par des petites questions, Caroline. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, sans trop réfléchir.
Okay.
Ta plus grande peur?
Mourir.
Tes citations préférées?
Non, alors c'est même pas vrai. En plus, c'est pas mourir.
C'est pas mourir.
Pas mourir, c'est la mort de mes enfants. Je crois que c'est ce qui me le terrorise. Rien qu'à l'idée, j'ai une admiration sans borne aux gens qui arrivent à revivre après ça. Même d'en parler là, tu vois, je fais tout ce que je dis. Ça jamais. Ça.
Ouais. Tes citations préférées?
On a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une, parce que c'est la mort de mon grand-père qui m'a fait réaliser ça. Confucius encore. Ou alors Nelson Mandela aussi. Il y a pas d'échec. Soit je réussis, soit j'apprends. Ou alors aussi une autre de Paulo Coelho. Faut continuer à essayer. Tu vois, quand il y a un trousseau de clés, faut toujours essayer, continuer, parce que c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. J'adore cette. J'en ai 25. Donc vas-y, continue sinon.
Tes livres préférés?
Virginie Despentes. Vraiment, ouais. je me délègue de tous ces bouquins les uns après les autres. Elle a des associations de mots, une façon d'écrire. J'adore. Vraiment, je suis
d'accord. Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale?
Le rire. Mais alors, jusqu'à présent, j'avais pas de routine. Et depuis le 1er février, je le tiens à préciser, nous enregistrons le 3 février. C'est juste. Mais j'ai une routine depuis le 1er février. Voilà.
D'accord.
Ça fait deux jours.
Qui est quoi?
Jusqu'à présent, j'ai tenu. qui est de faire. Alors, c'est la technique des petits pas. Hein, une des techniques dont j'avais parlé dans un de mes podcasts également. Qui est de me mettre au sport tous les jours. Et j'ai commencé par 4 minutes. Donc, première semaine, 4 minutes de sport par jour. Donc, J'ai fait mes 4 minutes de sport ce matin.
C'est déjà un
ouais,
bon
début. Je suis hyper fière.
Bah ouais, bravo. un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en retiens.
Le zénith où je me plante, vraiment, qui est un échec total. Mais j'en retiens un truc très positif qui est dans cet échec-là, je vais décider de changer de vie, donc de trouver un truc incroyable. Ça va pas. Alors que d'autres qui l'ont vécu avec moi l'ont très mal vécu. Moi, je veux en tirer le meilleur pour devenir ce que je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu crois à la chance ?
Alors, je crois pas. Je crois pas à la chance, c'est pas vrai. Je pense que tout le monde a à peu près le même degré de chance ou de malchance. Même si je pense qu'en étant en énergie positive, tu attires du positif. Donc, si tu veux attirer la chance, fais du bien autour de toi, sois joyeuse. C'est pas de la magie, c'est pas des trucs. Tu croises quelqu'un dans la rue qui est fermé, qui machin, qui est comme ça et qui souffre. Tu n'as pas envie d'aller vers cette... Tu vois une fille solaire ou un garçon solaire qui marche, qui sourit, qui fait « Hey, bonjour, comment allez-vous » Bah, tu dis « Oh putain, cette personne est incroyable, bonjour, bah, ça va et tout, tu nous... » Voilà, et ça c'est vrai, et je le dis. Donc attrape ta chance, provoque ta chance, essaye au maximum de ta vie d'être en énergie positive, de dégager l'énergie positive pour recevoir de l'énergie positive. Ça marche, je vous jure les amis, ça marche.
Les questions que l'on te pose le plus, ou la question que l'on te pose le plus.
La question, c'est comment on fait pour passer d'avocate à humoriste ?
Ok, on y a répondu.
On démissionne.
Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie ?
Ça m'évoque, déjà le mot le plus important de cette phrase, c'est la vie, sa vie, on n'en a qu'une, c'est sa vie, c'est pas ses vies. Et donc le potentiel, tout le monde a du potentiel dans sa vie, et maximise-le, c'est utilise-le, puisque tu as une vie, du potentiel, à toi de le maximiser.
Merci beaucoup Caroline.
Avec plaisir.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.